Bonsoir. Le chef de l'État a prononcé lundi dernier son discours sur l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en Congrès. Concernant les processus électoraux, Joseph Kabila affirme notamment que les élections auront lieu comme prévu conformément au calendrier de la CENI. À cet effet, il invite le Parlement à adopter la CENI des lois irrelatives et le gouvernement de lui octroyer les moyens nécessaires. Les coordonnateurs du mécanisme national de suivi de l'accord d'Addis Abeba affirment qu'un groupe de 120 ex-M23 a été rapatrié mercredi dernier en RDC. De son côté, le M23 parle des rapatriements forcés qui violent ainsi les principes du droit international. Tels sont les thèmes de ce soir dans la tribune de la presse. Nous avons autour de cette table Louis-Dor Balekeda, il est éditeur du journal Le Pouvoir du Peuple et journaliste à la radio-télévision nationale congolaise RTNC. Bonsoir Louis-Dor Balekeda.
Bonsoir Emina Confrère, merci.
Giscard Koussema, directeur général des canaux Future Télévision. Bonsoir Giscard Koussema.
Bonsoir Guy Maté, bonsoir également à mes confrères.
Et Georges Kastongo, il est journaliste de la radio Aki Zabinadamu de Kindu au Maniema. Bonsoir Georges Kastongo.
Bonsoir Guy Maté, bonsoir à tous qui nous suivent à travers la radio de la paix.
Bienvenue à tous dans cette émission. Le chef de l'État était devant le Congrès lundi dernier. François Mwamba a fait une mise au point sur les rapatriements des ex-M23. Comment la presse a analysé cette actualité? Suivons cette revue de presse que nous présente Alain Hirung.
Bonsoir. Les journaux parus cette semaine à Kinshasa sont revenus notamment sur le discours du chef de l'État Joseph Kabila devant le Congrès et aussi sur la mise au point concernant le rapatriement des ex-M23. Si la plupart des journaux s'intéressent à la partie de l'adresse du chef de l'État consacrée au processus électoral, chacun y va de son analyse. Ainsi, Forum des As estime que le président de la République maintient le suspense sur une éventuelle candidature à l'élection présidentielle de 2016. Joseph Kabila sera-t-il candidat à sa propre succession à l'horizon 2016? Quelle est sa position par rapport au débat politique en cours sur la révision constitutionnelle? À toutes ces interrogations, indique le journal, Joseph Kabila est resté énigmatique. Même constat du journal Le Phare. Des millions de compatriotes qui attendaient une clarification au sujet de l'intention de Joseph Kabila de se porter candidat ou non à sa propre succession, au-delà des mandats lui reconnus par le législateur, sont renvoyés à la case de l'observation, indique le confrère. Ainsi constate Le Phare, le suspense continue au sujet de sa retraite politique ou non à l'horizon 2016. Le quotidien souligne qu'il n'est pas sûr que le mutisme affiché par le chef de l'État calme les ardeurs de ceux qui pensent qu'une prise de position claire au sujet de la fin de son mandat aurait eu le mérite de fixer définitivement les esprits sur l'ouverture du round de sa succession. Dans son éditorial, Le Potentiel revient sur le discours du chef de l'État et analyse la séquence au cours de laquelle Joseph Kabila a fait valoir la souveraineté de son pays. Le président congolais a indiqué qu'il n'acceptait pas d'injonction de la part des partenaires étrangers de la RDC sur le processus électoral. Les règles du jeu étant connues, commente le journal, le garant de la Constitution et du bon fonctionnement des institutions en RDC est d'avis que toute forme d'immixtion dans les affaires internes congolaises constitue une ingérence inacceptable, d'autant plus que les acteurs en présence sont capables d'affronter toutes les questions du pays. Encore des nouvelles du M23 ce vendredi, et c'est Le Potentiel et Le Phare qui s'y collent, relayant tous deux la conférence de presse tenue jeudi par le responsable congolais du suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, la RDC, ne rapatrie personne de force. Les amnistiés M23 sont à peine 500 quelques individus et pas 1000 et quelques ou encore 4000 comme les rumeurs le laissent entendre, et ils sont tenus de retourner en RDC volontairement. Toutefois, fait remarquer François Mwamba, selon ces deux médias, l'intoxication d'un statut de réfugié qui leur avait été miroité ces jours-ci est une tentative de relancer une nouvelle rébellion.
Merci Alain Hirung, Louis-Dor Balekeda. Je rappelle que vous êtes éditeur du journal Le Pouvoir du Peuple. C'est un journal qui paraît ici à Kinshasa. Vous êtes aussi journaliste à la radio-télévision nationale congolaise RTNC en sigle. L'actualité, c'est aussi le naufrage de la semaine dernière sur le lac Tanganyika au Katanga qui a fait 120 morts et plus de 200 disparus. Et selon les autorités locales, la surcharge et le mauvais temps constituent la principale cause de cet accident.
Bien, je me dois d'abord de
m'incliner devant la mémoire de tous ces compatriotes qui ont péri dans ce naufrage. Et c'est regrettable, paix à leurs âmes, mais il va falloir tout de suite indiquer que, au-delà du mauvais temps qui est souligné comme étant la cause, il y a également l'opiniâtreté même des armateurs, d'une manière générale, parce que quand vous suivez le récit qui retrace ce drame, on nous apprend que le naufrage a eu lieu pendant que le passager dormait, autour de 23 heures, quelque chose par là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'embarcation a quitté le port trop tardivement. Et au regard des éléments réunis jusqu'à ce jour, les enquêtes se poursuivent et nous souhaitons qu'elles aboutissent, que l'enquête aboutisse le plus tôt possible pour que les responsabilités soient établies et les responsables punis. On constate malheureusement que les armateurs, et particulièrement pour le cas de cette embarcation, il n'a pas pu écouter les conseils de ceux qui sont vraiment habilités à indiquer l'heure à laquelle on peut quitter un port pour un autre. Donc 120 personnes mortes, c'est beaucoup. Même un seul Congolais mort, c'est vraiment excessif. Et 200 disparus, et parmi lesquels on a retrouvé même certains avec des gilets. Quand bien même les gilets sont considérés comme étant une sorte de protection, mais il peut arriver que quand on porte le gilet, on se retrouve dans une situation où on ne sait même pas où on va, et on est surpris par la queue, par la mort bien entendu. Et donc je souhaite que le ministère des Transports et Voies de Communication puisse accélérer l'enquête là-dessus, que les commissaires maritimes et même tous ceux qui sont affectés à la sécurité des personnes et de leurs biens sur nos lacs, sur nos rivières et même sur le fleuve Congo soient assurés pour que nous n'ayons pas beaucoup de morts de trop. Le Congo est vaste, nous avons besoin de tous les bras, nous avons besoin de toutes les mains et de toutes les jambes pour pouvoir reconstruire ce pays. C'est regrettable.
Je rappelle que vous êtes directeur général des canaux Fikir Télévision. L'autre actualité, c'est la reprise de l'offensive conjointe FRDC-MONUSCO cette semaine à Beni contre les rebelles ougandais des ADF.
Oui, je voudrais d'abord placer un mot sur cette série de catastrophes pour me poser finalement une question sur ces antennes. Combien de morts faut-il pour que nos autorités s'émeuvent lorsque en un jour, un bateau qui a 350 personnes à bord fait naufrage et qu'il n'y a rien du côté des autorités, même pas une journée de deuil national. Lorsque plus de 270 personnes sont massacrées à Beni en l'espace d'un mois, rien du tout, même pas un mémorial, même pas une cérémonie officielle d'inhumation. Je me demande, voilà, à quel point la vie des Congolais ne constitue plus un fait, c'est à la limite un fait divers. Donc voilà où allons-nous et quelle image donnons-nous finalement à l'extérieur du pays. Alors pour revenir à cette offensive,
la reprise des offensives conjointes FRDC et MONUSCO contre les ADF Nalu.
Oui, ce n'est pas la première fois que la MONUSCO et nos vaillants FRDC se lancent dans dans cette opération-là. Mais ce sont les résultats qui intéressent. Quels résultats? Les résultats, ce sera encore des morts en série. Donc, soit qu'ils s'y prennent très mal, soit que la tactique qu'ils utilisent n'est pas appropriée. Ce n'est pas la première fois. Il y a même eu une brigade spéciale qui a été instituée. Mais combien d'ADF avons-nous vu à la télévision? Combien ont été tués? Et au contraire, c'est un groupe qui se durcit et qui multiplie encore sa capacité de nuisance.
Merci Georges Kassongo, journaliste à la radio Akiza Binadamu de Kindu Maniema. Et un mot au sujet de la reprise de l'offensive contre les ADF au Nord Kivu.
C'est une opération de plus. Nous voyons là la MONUSCO encore, parce que lorsque nous avons suivi les discours du chef de l'État en rapport avec les casques bleus, nous avons eu les messages. Et également, les casques bleus sont au front dans une guérilla, parce que ce qui se passe déjà dans la région de Benimba ou là dans le territoire de Beni, ce n'est plus une guerre classique, c'est une guérilla où on ne sait pas, la MONUSCO sera toujours très importante, notamment par sa logistique et à travers les informations, bien les renseignements militaires. Nous soulignons encore une fois la MONUSCO qui se lie au FRDC, mais ce qui est à retenir est que l'opération, bien que conjointe, nous saluons la logistique et les renseignements militaires de la MONUSCO, mais c'est une opération FRDC parce que très souvent nous le savons, la MONUSCO n'a pas l'habitude d'être à la première ligne de front. Ce sont les FRDC à qui nous souhaitons toutes les bonnes chances. dans cette dire épreuve de la guérilla qui a élite domicile dans cette partie du territoire. Mais également pour ce qui est du naufrage sur le lac Tanganyika, nous pouvons ne pas dire un mot qu'il est temps de poursuivre les réformes initiées par les ministres des travaux, disons, des transports et voies de communication, et notamment de dire clairement au personnel de ne plus se croire pour comme des petits seigneurs qui agissent en toute indépendance, de se croire comme des préposés de l'État appelés à mettre en œuvre les normes de l'art. Vous voyez ce qui se passe là-bas, c'est un clic, il y a l'armateur, le commissaire, la CIS, il y a tout le monde là qui doit au moins respecter la loi du pays, les normes à la matière. Vraiment, lorsqu'un Congolais meurt, vraiment, ça me fait toujours mal et je me dis que peut-être ça devrait être moi, c'est parce que peut-être je n'ai pas été à cet endroit à ce moment-là. Vous voyez que nous ne sommes pas à l'abri de ce qui arrive à nos compatriotes.
Merci, Jean-Jean.
Alors, ce qui est à faire est que les autorités doivent faire les miens pour éviter que des gens, des choses, des accidents évitables puissent toujours être en récurrence, en répétition d'une façon chronique et cela... Ça fait mal.
Mais merci, Georges Kassongo.
Les informations dont nous venons de parler ici, vraiment, je salue la bravoure des FRDC. Je les souhaite toutes les chances, mais également au niveau de la communauté internationale, de dire vrai, nous ne savons pas ce qui se passe dans la région de Beni.
Merci, Georges.
Ok.
Merci, Ludor. Un mot, juste un petit mot.
Oui. C'est pour saluer vraiment cette initiative de la MONUSCO, comme elle l'a fait lorsqu'il a été question de traquer le M23, de pouvoir s'associer au FRDC pour traquer les ADF Nalou. Mais hélas, malheureusement, c'est une intervention qui vient après plus de 200 personnes massacrées, alors que la MONUSCO dispose des drones qui ont été justement déployés dans cette partie du pays pour sécuriser la population. On aurait dû les déployer bien avant. Parce que cette guérilla, avec ces gens qui viennent égorger femmes et enfants, s'enfuient dans la forêt. Il faut des moyens sophistiqués pour pouvoir les repérer et arrêter tous ces massacres.
Merci. Notre premier thème de ce soir, le chef de l'État a prononcé lundi dernier son discours sur l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Concernant les processus électoraux, Joseph Kabila affirme notamment que les élections auront lieu comme prévu conformément au calendrier de la CENI. À cet effet, il invite les parlements à doter la CENI des lois irrelative et le gouvernement de lui octroyer les moyens nécessaires. Suivons cet extrait du discours du chef de l'État.
Toutes les élections prévues par les lois de la République seront donc organisées conformément aux dispositions qui seront prises par l'institution compétente pour ce faire, à savoir la CENI. Ensuite, qu'il est du devoir de l'Assemblée nationale et du Sénat de doter la CENI de lois dont elle a besoin pour mieux programmer les différentes séances électorales. J'invite pour sa part le gouvernement à mobiliser et à mettre à la disposition de la CENI les ressources nécessaires pour la bonne organisation des élections. Je les exhorte tout autant à appuyer comme il sied l'Office national d'identification de la population. Les résultats du travail de ce service public étant nécessaires pour la bonne fin du processus électoral. Cela dit, comment clore ce chapitre sans évoquer l'effervescence qui, depuis un peu plus d'un an, agite une partie aussi bien de la classe politique congolaise que de la communauté internationale à propos du dit processus électoral? Aux acteurs politiques congolais, de quelque bord qu'ils soient, l'on peut contester le moment choisi ou les arguments développés. Mais non leur droit de susciter ou d'entretenir le débat sur les questions d'intérêt national. On peut, en revanche, s'interroger sur le bien fondé de l'auto-invitation dans ce débat de personnalités non congolaises, aussi bien intentionnées soient-elles.
Ludor Balekela, je rappelle que vous êtes éditeur du journal Le Pouvoir du Peuple. C'est un journal qui paraît ici à Kinshasa et vous êtes aussi journaliste à la Radio-Télévision Nationale Congolaise, RTC en sigle. Comment vous avez apprécié le discours du chef de l'État devant les congrès lundi dernier?
Bien, par rapport à l'extrait choisi, tout comme à l'ensemble du discours, j'ai estimé que c'était un discours responsable et réaliste dans la mesure où le chef de l'État, de par ses missions constitutionnelles, engage l'État, engage le peuple congolais, et donc les points de vue qu'il a exprimés sont à inscrire dans ce cadre-là. En ce qui concerne le chapitre consacré aux élections, je crois que le président de la République, même si d'aucuns n'arrivent pas à lire entre les lignes cette façon de voir les choses, a clairement indiqué à quelle porte il faut toquer en ce qui concerne l'organisation des élections. Les gens croient qu'il faut que le président Kabila dise qu'il va rester en 2016 ou partir, mais la Constitution est claire là-dessus. Je ne pense pas qu'il faut demander au président Kabila de dire qu'en 2016 il va partir parce que les choses sont déjà établies comme telles. On l'a vu au Bénin et le président béninois a pu le faire et vous voyez ce qui se passe au Bénin. Donc moi je pense que c'est beaucoup plus réaliste, beaucoup plus sage de ne pas se prononcer en tant qu'individu sur une telle matière dans la mesure où on ne sait pas ce qui va se créer non seulement autour de lui parmi ses collaborateurs mais aussi dans la classe politique tout entière. Mais ce qui est évident, c'est que l'opposition particulièrement doit savoir que l'alternance se prépare au jour le jour. Il ne faut pas attendre en 2016, c'est maintenant qu'il faut préparer l'alternance. Et la notion d'alternance mérite d'être précisée ici, éminent confrère, parce que les gens croient que quand on parle de l'alternance en 2016, c'est-à-dire si le président Kabila part, automatiquement tous ses collaborateurs, on ne les verra plus en train de circuler à Kinshasa, ou ceux qu'on verra, on va les massacrer, on va brûler leurs biens. Non, 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 les contextes ont changé. Les contextes ont changé. Le cas du Kenya doit inspirer tous ceux qui nourrissent ce genre d'intention que quiconque aurait cohabité avec le pouvoir, lorsque le pouvoir tombe, est obligé d'être abattu. Non, la Cour pénale internationale est là pour ça. Il faut donc jamais nourrir l'ambition de régler les comptes aux autres après l'alternance. Mais qui dit que l'alternance peut également se faire au sein de la classe politique au pouvoir? Parce que le président Kabila peut, à un certain moment, librement dire « Moi, je me retire, mais je désigne tel dauphin pour poursuivre l'œuvre que j'ai commencée. » C'est ça aussi l'alternance. Les gens croient que l'alternance, c'est prendre un opposant, même qui n'a pas été élu, et l'imposer à la tête de l'État pour gérer. Forcément. Je crois que c'est une mauvaise conception de la notion d'alternance.
Forcément, vous êtes directeur général du canal Futur Télévision. Vous avez suivi Louis-Dor Balikelaï. Les discours du chef de l'État a été diversement apprécié. Et ça relance même les débats sur toutes les questions de l'heure. Hein. Il a évoqué l'alternance, il a évoqué les élections de 2016. Comment vous avez apprécié ces discours d'abord?
D'abord, de manière générale, je voudrais noter ici un déséquilibre dans la construction même de ce discours du chef de l'État.
Pourquoi déséquilibre?
Lorsqu'on parle d'un état de la nation, je m'attends à un diagnostic, à un état des lieux. Un état des lieux qui prend en compte tous les différents secteurs de la vie, partant de la politique, de la sécurité intérieure, de l'économie, du social même des Congolais, de la politique internationale de la République démocratique du Congo dans ce contexte de développement. Il me semble que certains aspects n'ont même pas été évoqués, rien n'a été dit sur les sociales, et sur les quelques aspects sur lesquels le chef d'État s'est appesanti, bien au contraire, il a ravivé l'attention aussi bien sur les plans internes que sur les plans externes. Au plan interne, par exemple, l'on attendait du chef de l'État qu'il mette finalement un terme à ce que lui-même a appelé agitation. Il dit qu'il sent une effervescence, il sent une agitation, mais lui a apporté sa part des contributions parce que finalement il apporte beaucoup plus de flou et ça paraît comme un défi qu'il lance à l'interne et à l'externe. À l'interne, le défi lance au chef de l'État, c'est de dire finalement qu'il est là, qu'il ne faut rien attendre de lui, il ne faut même pas lui poser la question de savoir s'il sera là ou pas. Lorsque le président de
Louis-Dor affirme que nous sommes encore en 2014, vous pensez que le moment est indiqué pour commencer déjà à parler de ce qui va se passer en 2016.
C'est une mauvaise lecture des choses parce que les élections constituent un processus. Lorsque les élections ont lieu en 2016, le premier pas doit être
justement, le chef de l'État a confirmé qu'il y aura des élections conformément au calendrier de la
Très bien, Revenons à cette phrase-là. Lorsque le président de la République dit que les élections auront lieu conformément au calendrier de la CENI, or, les calendriers publiés par la CENI est contesté par tous, c'est un calendrier qui ne fixe même pas les élections présidentielles, ça vous le savez. Donc, lorsque le président de la République renvoie la balle à la CENI, donc il vous dit clairement que les élections n'auront pas lieu. Parce qu'aujourd'hui, le seul calendrier publié par la CENI ne prend pas en compte les élections présidentielle, ça vous le savez. Donc, lorsque le président de la République vous renvoie à la CENI, donc il est clair qu'il vous renvoie au-delà de 2016. Donc là encore, c'est un flou. Lorsque le président de la République, ça c'était les défis au plan interne, au plan externe par exemple, dit que personne n'a les droits de s'immiscer. Mais écoutez, la communauté internationale pour cette question précise constitue un partenaire. L'on sait que la réussite des élections dépend d'une contribution en matière logistique. Mais pour préparer cette logistique, mais on doit avoir un planning. L'on sait que l'élection c'est pour telle, et les partenaires peuvent se poser cette question pour pouvoir commencer à aménager son temps à préparer lorsque rien n'est dit. Donc c'est un défi.
Et c'est même
aller très loin jusqu'à défier la communauté internationale dont on sait qu'il est un partenaire.
Merci,
aussi
Jessica.
Bien sur les plans politiques, sur les plans sécuritaires, sur les plans économiques.
Je voudrais récupérer le temps
de parole.
Un peu par rapport au temps de parole que vous me donnez sur ce plateau. Je voudrais dire que je voudrais exprimer toute mon indignation par rapport à ce que mon éminent confrère Giscard Koussama, que je respecte beaucoup, vient de dire par rapport à la communauté internationale. Le chef de l'État n'a pas minimisé la communauté internationale. Nous sommes un État souverain. Nous avons plus de 50 ans d'indépendance. Je serai incomplet si vous me ravissez la parole. Nous acceptons les avis et les conseils des autres, mais nous ne pouvons pas accepter qu'eux viennent décider à notre place. Rappelez-vous, en 2011, la même communauté internationale a fait pression sur le pasteur Ngoï Mulunda, qui, sous pression, a dû organiser les élections dans 6 ou 7 mois. Et qu'est-ce qu'on a eu comme résultat? Les élections ont été contestées. Et
le
résultat, la même communauté internationale,
nous sommes
aujourd'hui en 2014, la même communauté internationale dit, pour vous donner de l'argent, donnez-nous un calendrier.
Okay.
On ne voudrait pas que demain, ça soit la même chose comme en 2010.
Merci Ludo, on vous a compris. On vous a compris. Georges Katongo, vous êtes journaliste à la radio Akiza Binadamu de Kindu Maniema. Comment vous analysez ces débats soulevés par le discours du chef de l'État lundi dernier devant les congrès, hein? Il a notamment évoqué la question sur les élections. Il dit que à ce sujet, que les élections seront, n'est-ce pas, tenues conformément au calendrier de la CENI.
Oui, Guy Maté, merci beaucoup. D'abord, je tiens à préciser que mes deux co-débatteurs ont pris pratiquement 8 minutes. Je m'attends à mes 4 minutes. En tant que journaliste, nous devons parfois orienter les débats et dans l'opinion publique. Les discours à la suite de l'état de la nation prononcés par le chef de l'État tirent son origine dans l'article 707 de notre Constitution, à la linéa 2, où, je cite, il communique, c'est-à-dire le chef de l'État, avec le chambre du Parlement par des messages qu'il lit ou fait lire et qui ne donne lieu à aucun débat. Donc nous devons apprendre d'abord à respecter notre Constitution au regard de tout ce que nous venons de suivre à travers tous les médias, ce sont des débats, alors que la Constitution est claire que ça ne doit pas faire objet d'aucun débat, que ce soit à la presse et dans les autres
partout
là-bas.
Donc,
s'agissant du discours lui-même, comme je l'ai analysé, j'ai trouvé au moins le chef de l'État, je l'ai résumé en 8 points. Le premier point, je ne sais pas si je pourrais m'expliquer tout simplement en rapport avec les élections, bien avec les discours.
Non, parlons d'abord élections.
Ok. S'agissant des élections, le chef de l'État a dit que les élections sont incontournables. C'est-à-dire, pour accéder à des charges de l'État, il faut passer par les élections. Mais le suspense qui a été gardé par le chef de l'État lui-même, comme il sait jouer très bien au suspense, c'est de ne pas préciser. Parce que même dans la salle, si j'ai bien comptabilisé, la salle n'a pas applaudi plus de 7 fois. C'est-à-dire que la salle n'a pas trouvé ce qu'elle attendait du discours. Alors, le chef de l'État, tout le monde, les Congolais moyens, attendaient que je ne serai pas candidat. Et même s'il ne l'a pas dit, il ne le sera pas parce que la Constitution, à mon avis, ne sera pas révisée. Et en plus, il a posé des préalables au Parlement d'abord, donc les deux chambres réunies, et voter des lois, de donner, de doter la CENI par l'arsenal juridique, disons, conforme, dont il pourra lui rendre facile la vie. Et aussi au gouvernement, parce que le gouvernement devrait quand même mettre les moyens. Mais le gouvernement, dans notre assentiment au Congo, on voit seulement les ministres. Mais dans notre système, moi je pense que le président lui-même fait partie du gouvernement, parce que le gouvernement c'est l'exécutif.
Merci.
Et si nous voyons très bien, le président pourrait être qualifié comme le chef de l'exécutif, parce qu'il n'est pas ni dans l'exécutif, le législatif, et encore moins dans le judiciaire. Alors oui.
Merci, nous allons vous redonner la parole, Jusqu'à Koussema. Donc vous estimez que le chef de l'État, dans son discours, ne devait pas dénoncer ce qu'il appelle injonction des partenaires extérieurs.
Je vais y revenir. Permettez-moi d'abord d'aider notre confrère qui est peut-être dans l'ignorance. Lorsqu'on dit que le discours du chef de l'État ne donne pas lieu à un débat, c'est par rapport à au Parlement. Ce n'est pas le débat au niveau du Parlement, de la Chambre basse ou la Chambre haute. Donc il n'est pas interdit aux journalistes ou aux médias de faire des commentaires sur les discours du chef de l'État, ou même aux députés de les faire aux médias.
Vous estimez que le chef de l'État ne devait pas, n'est-ce pas, dénoncer l'injonction des partenaires extérieurs dans ces débats sur les élections?
Parlons justement de cette injonction. Je crois que le chef de l'État voulait faire allusion ici aux déclarations faites par les États-Unis à travers le secrétaire d'État, ou encore aux déclarations de la France à travers le chef de l'État français. Mais écoutez, il n'y a pas injonction. Mais qu'est-ce que toutes ces personnalités, ces organisations ou ces États ont dit? Mais ils n'ont fait que rappeler ce que nous demande la Constitution, de respecter la Constitution. Le respect de la Constitution n'est pas une injonction. Je peux le dire, n'importe quel citoyen congolais peut le dire, n'importe quel État. Mais lorsque les États se rappellent à un autre État, il ne s'agit pas d'une injonction. Je crois que là également, ça vaut la peine d'être dit et clairement dit. Donc, il n'y a pas injonction. On est dans les concerts des nations. La communauté internationale a un rôle à jouer, on le sait bien, surtout en matière d'élection, parce qu'ils ont une part des contributions à donner, parce que nous vivons dans un concert des nations où il y a des standards internationaux. La République démocratique du Congo a souscrit à des engagements à travers certains organismes. Je termine également. Par rapport à ces chapitres liés aux élections, lorsque le chef de l'État dit que l'Assemblée nationale et le Sénat devraient doter la CENI de la loi, comme pour dire qu'il n'y a aucune loi sur les élections, mais la loi, elle existe. C'est la même CENI, on a changé de souci. Il existe des lois, on veut simplement changer des lois pour obtenir un glissement. Il n'y a pas un vide juridique, il existe bel et bien une loi. Il existe une loi électorale, il n'y a pas un vide.
Vous savez aussi, jusqu'à Koussema, qu'il y a une démarche à l'Assemblée nationale pour réviser la loi électorale.
Mais justement, c'est cette démarche-là que les gens dénoncent. C'est ça qui constitue un non-respect de la loi électorale, de la loi fondamentale plutôt.
Ludo Barkelaï, il y a les quotidiens, les potentiels, qui a souligné qu'il est difficile, n'est-ce pas, d'établir la frontière entre les injonctions et les conseils des amis de la communauté internationale, dans un contexte de mondialisation.
Non, écoutez, avant d'arriver...
Qu'est-ce qu'on appelle injonction? Qu'est-ce qu'on appelle conseil des amis?
Avant d'arriver là-bas, je voudrais réduire un tout petit peu les limites d'un peu d'amalgame que je note sur cette question des élections. Il y a un problème réel qui se pose. C'est que depuis 2006 jusqu'à ce jour, il n'y a jamais eu d'élections locales dans notre pays. Nous avons organisé les élections présidentielles, les élections législatives, et nous sommes en train de construire un édifice démocratique qui se trouve comme une maison avec une charpente, avec bien entendu les murs qui représentent les députés consorts, la charpente c'est le président de la République qui a été élu par deux fois, et en dessous il n'y a rien, c'est du sable, il n'y a pas de fondation. Les administrateurs de territoire, les maires des villes, qui ils rendent compte à qui les contrôle? C'est là-bas tous ces millions de compatriotes qui n'ont jamais voté. Vous pensez que ce n'est pas leur droit?
Vous voulez dire quoi par là?
Moi je crois que c'est dans ce sens-là qu'il faut toucher quelques articles de la loi électorale spécifiquement pour ce cas, pour donner à des milliers de compatriotes le droit de lire leurs conseillers municipaux, leurs administrateurs de territoire, leurs conseillers de chefferie, ainsi de suite. Ainsi, nous aurons un édifice démocratique complet avec une fondation et tout le reste. Sans
sans cela, je crois que nous sommes en train de basculer dans ce que j'appelle un procès d'intention, dans la mesure où même la communauté internationale elle-même, dont on dit qu'elle a le droit de donner des avis, n'a pas un baromètre pour tester les intentions malveillantes ou bienveillantes des dirigeants africains. Là, il faudra que nous comprenions que nous ne pouvons pas laisser faire ici ce que j'appelle l'assomption du quatrième paradigme du néocolonialisme, où l'indépendance donnée de la main droite en 1960 est en train d'être récupérée de la main gauche. Il faut que les États s'organisent, les conseils sont les meilleurs, mais ce sont les Congolais eux-mêmes qui doivent être aidés à dialoguer, opposition comme majorité, pour arriver à un consensus vrai et organiser un État de droit.
Geoff Kastongo, au sujet de cette question d'injonction, n'est-ce pas, des partenaires dans le débat sur les élections, comment vous analysez cela? Qu'est-ce qu'on appelle injonction? Qu'est-ce qu'on appelle conseil d'amis?
Voilà, à ce sujet, il faut être clair avec la communauté internationale. Vous savez, cela relève de la problématique ici, la souveraineté. Vous savez, lorsque nous organisons les élections, on dit que la communauté internationale doit nous appuyer. Lorsqu'il faut stabiliser, pacifier notre pays, il faut que la communauté internationale vole à notre secours. Mais le principe est simple, la main qui donne est celle qui dirige. Comment voulez-vous pour pacifier votre pays qu'on vous aide pour organiser les élections, qu'on vous aide pour réhabiliter les routes, qu'on vous aide, mais quand il s'agit d'organiser les élections, il n'y a pas un mot à dire. Oui, c'est là le problème. Donc nos amis, comme ils ont la main supérieure, donc celle qui donne, acceptons également qu'il y ait des injonctions à nous donner, parce que c'est ce qui est clair, hein? C'est simplement clair, on ne peut pas faire autrement. Si nous voulons échapper à cela, si nous voulons obtenir des conseils d'amis, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons arriver à financer nos élections tout seuls et que ces élections soient acceptées par tous. Nous devons apprendre à se prendre en charge, comme disait M. Laurent Désiré Kabila. Lorsque nous aurons organisé notre administration, lorsque nous aurons à faire nos propres routes, lorsque nous aurons organisé nos élections, lorsque nous aurons à résoudre nos problèmes entre nous, lorsque la majorité au pouvoir sera en mesure de comprendre, d'entendre l'opposition, d'écouter les préoccupations légitimes de sa propre population.
Merci, Georges.
Vous voyez, même les injonctions, il n'y en aura pas.
Merci, nous passons à notre deuxième thème de ce soir. Le coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord d'Addis Abeba affirme qu'un groupe de 120 ex-M23 a été rapatrié mercredi dernier en RDC. De son côté, le M23 parle des rapatriements forcés qui violent ainsi les principes du droit international. Une première vague des 120 ex-rebelles du M23 a été acheminée par avion de l'Ouganda vers la RDC. C'est le point de départ pour le respect de l'accord de Nairobi signé entre les autorités de Kinshasa et l'ex-rébellion. Cependant, l'ex-rébellion M23 pense qu'il s'agit d'un rapatriement forcé, ce que ne reconnaît pas du tout le camp gouvernemental. Explication avec vous, Berry Franklin Luchaka.
Tout part des déclarations signées séparément par le gouvernement congolais et l'ex-rébellion, le M23, l'an dernier. Bien que signées séparément, il y a lieu de noter que les deux déclarations prises ensemble couvrent les 11 points négociés et convenus entre les deux parties, parmi lesquels on peut citer la fin de la rébellion, l'amnistie, la libération des prisonniers, le retour et l'installation des réfugiés et des personnes déplacées internes, la démobilisation et réinsertion des combattants du M23 et j'en passe. Lors de l'évaluation de ces déclarations faites le vendredi dernier, les deux parties se sont accusées mutuellement de ne pas respecter les engagements pris. Cependant, le rapatriement des ex-combattants M23, qui fait partie de ces déclarations de Nairobi, n'est pas vu d'un bon œil par le M23. L'ex-rébellion a accusé Kinshasa en début de semaine de vouloir faire revenir de force les anciens membres de la rébellion du M23 en RDC. Le mouvement s'appuie sur le fait que plusieurs de ces ex-combattants réfugiés en Ouganda ont été blessés par balles mardi 16 décembre par l'armée ougandaise, dénonçant de ce fait une tentative de rapatriement forcé. Une version des faits que dément catégoriquement le coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord d'Addis Abeba. D'après François Mwamba, pour être rapatrié, il faut le vouloir, il faut le souhaiter. Donc, poursuit-il, je dément formellement toute allégation du type rapatriement forcé. Personne ne sera rapatrié par la force. Revient au Congo, c'est lui qui est congolais et qui souhaite revenir au Congo. C'est une citation que je referme. Tout compte fait, 120 ex-combattants du M23 sont en RDC, mais jusque-là, il est difficile de connaître les conditions dans lesquelles ils sont arrivés dans leur pays.
Jusqu'à Kousseman, nous sommes dans les cadres, n'est-ce pas, de la mise en application des déclarations de Nairobi. Et déjà, il y a une polémique. Hein. Rapatriement volontaire, rapatriement forcé. Comment vous analysez cette polémique?
D'abord, je vous fais remarquer qu'il y a une année exactement, le gouvernement claironnait urbi et urbi qu'il venait de mettre un terme à la guerre. Et c'est ce refrain-là qui est repris dans tous les discours, même dans les derniers discours du chef de l'État, pour dire que la guerre est finie. Et nous voilà aujourd'hui à la case de départ. Alors, pour comprendre cette question, il faut d'abord revenir à l'accord dont on a fait allusion ici. C'est un engagement signé entre deux parties, entre le M23 et le gouvernement congolais. Il est d'abord malhonnête aujourd'hui de faire porter tout l'échec au seul M23, comme s'il n'y avait que le M23 qui avait des engagements. Et pourtant, il y a 11 points d'engagement commun entre les deux. Mais
vous avez suivi M. François Mwamba hier dans son chef, il a dit qu'il y a des points contenus, n'est-ce pas, dans ces différentes déclarations. Et pour les appliquer, ça nécessite, n'est-ce pas, la présence des éléments du M23 à Kinshasa. Mais c'est fait que
M23 refuse d'arriver à Kinshasa. Le processus de rapatriement devrait engager toutes les parties. Mais aujourd'hui, ces gens-là se retrouvent face aux Ougandais. Il n'y a rien d'autre. Donc, je pense qu'il est même intellectuellement malhonnête. En plus, il s'agit ici d'un État et d'une rébellion. Donc, on ne devrait pas mettre les deux sur le même point. Donc, le gouvernement a plus de responsabilités. C'est le gouvernement qui met les moyens. C'est le gouvernement qui contacte le gouvernement voisin pour que ces gens viennent ici. Or, il me semble que ce plan-là, lorsqu'on fait l'évaluation des 11 points, il n'y a rien qui n'a été fait. Et même les deux points qui ont été faits, vous voyez l'écart au cours duquel il y a eu entre une amnistie sélective et finalement le rapatriement. Et puis de deux, je voudrais mettre des réserves sur cette version du rapatriement. Parce qu'il y a d'abord un, il est anormal qu'il y ait des controverses autour du nombre même de réfugiés. Une année après, aujourd'hui, on ne sait pas combien sont-ils. On parle ici des 5, alors qu'on parle des 4 000. Je termine aussi. Même par rapport aux opérations, lorsqu'on dit qu'il y a eu des blessés, je pense que là également, c'est un scénario qui risque de nous faire basculer vers la naissance d'une autre rébellion. Je ne crois pas trop. J'ai l'impression qu'il y a un jeu qui se joue entre l'Ouganda et toutes ces personnes. Comment peut-on rapatrier 120 et on laisse 3 000 et tous sont aujourd'hui dans la forêt et rien n'est fait.
Ludo Valekelaï,
je ne saurais pas être le porte-parole du M23 comme mon éminent confrère que je respecte beaucoup et dont je respecte le point de vue exprimé tout à l'heure. Je voudrais tout simplement dire que il y a effectivement un nouveau plan de balkanisation qui se profile, qui se dessine pour pouvoir déstabiliser encore une fois la République démocratique du Congo.
Et là, vous basez sur quels éléments?
Rien qu'à voir les propos de M. René Abandi du M23 qui prétend comme l'ensemble de ses pairs qu'ils auraient eu la promesse d'obtenir un statut de réfugié, comme quoi après ils iraient au Canada vivre, ils ne viendraient pas au Congo parce qu'ils se sentent en insécurité. Éminent confrère, je voudrais vous rappeler ici la Convention de Genève de 1951 relative au statut de réfugié et même le protocole de New York de 1967.
Mais quand ici, moi, a plutôt dénoncé, n'est-ce pas, les caractères coercitifs de ces rapatriements.
J'en arrive là.
Il estime que, conformément aux déclarations signées à Nairobi, cette question-là devait être gérée, n'est-ce pas, en consultation entre le gouvernement congolais et M23, mais cela n'a pas été fait.
Il raconte des salades sur lesquelles je ne voudrais pas perdre mon énergie ici. Je voudrais situer les choses dans le contexte pour rappeler la Convention de Genève de 1951 relative au statut de réfugié, le protocole d'accord de New York de 1967, qui sont très clairs, qui disent que est considéré comme réfugié toute personne se trouvant en dehors de sa patrie et dont la vie est en danger pour son appartenance à une race, à une religion, pour ses convictions, ainsi de suite. Or, pour le cas de figure, il n'y a aucun élément du M23 dont la vie est menacée pour son appartenance à une ethnie. Il n'y a aucune épuration ethnique qui s'effectue présentement là en République démocratique du Congo. Le gouvernement congolais qui est accusé, c'est pour mon confrère, de n'avoir rien fait. Après la loi d'amnistie, au cas par cas, parmi ces éléments du M23, il n'y avait pas que des Congolais. Il y avait 3 ou 4, 6 nations qui opéraient autour de ces talibans qui ont multiplié les veuves et les orphelins sur le sol de nos ancêtres et pour qui on fait aujourd'hui l'apologie. Et donc, ça devait être étudié au cas par cas et le rapatriement est volontaire. Comment voulez-vous que 120 éléments acceptent de venir et un millier s'échappe au moment où ils étaient dans un camp supposé sécurisé par le gouvernement ougandais. Et donc, je vois que cette promesse de l'exil au Canada cache vraiment une intention réelle de relancer encore une fois la guerre en République démocratique du Congo. Et ici, c'est l'autorité du secrétaire général. Je conclue, j'ai dit que ici, c'est l'autorité, le pouvoir du secrétaire général des Nations Unies qui est mis en cause, qui est défié, parce que c'est lui qui a présidé à la cérémonie de signature de l'accord d'Addis Abeba. Et donc, le 23 n'a pas raison de se tromper d'époque. L'obligation est faite à tous ceux qui se reconnaissent comme congolais dans la patrie.
Georges Kassongo, tout n'est pas parti, n'est-ce pas, de ce qui a été fait en amont, parce que, vous savez, au mois de décembre de l'année dernière, des déclarations ont été signées à Nairobi. Les uns ont considéré ces déclarations comme étant des simples communiqués, d'autres, par contre, ont estimé que c'était des accords au vrai sens d'IMO, parce qu'il y avait des engagements mutuels. Est-ce que tout n'est pas parti de cette divergence de vues?
Voilà. La question qui est là, d'abord, saluer la position prise par les gouvernements congolais ne doit plus être naïf sur cette question. Vous savez, la question de la déclaration de Nairobi, nous avons ce qu'on appelle la loi de la guerre. La loi de la guerre veut que c'est lui qui est, donc il y ait d'abord un vainqueur et un vaincu. Et que les vaincus connaissent la loi du vainqueur. Mais ce qu'on ne comprend pas très bien, c'est cette tendance de conspiration internationale qui cherche toujours à conforter la position des criminels dans notre pays. Donc on leur cherche toujours des parachutes en or pour qu'ils viennent encore. Est-ce que, monsieur Kimate, où est-ce que vous aviez vu dans ce monde qu'on puisse faire organiser, donc complaire en même temps la victime et les bourreaux? C'est ça la question. Si celui qui se sent congolais, amnistié, qu'il rentre au pays, et vous savez, nous l'avons appris à travers les médias que le M23, c'était environ 6 nationalités qu'on déverse tout ce monde dans les grands Kivu. Ça, ce n'est pas accepté facilement. Alors, nous saluons d'abord la démarche du gouvernement qui a compris que vraiment le problème n'est pas là, comme l'a souligné l'éminent confrère, que c'est juste des velléités de balkanisation. Vous savez, en 1990, les réfugiés somaliens ont débarqué dans les Kivu, nous les avons vus. En 94, les Rwandais sont débarqués. Et aujourd'hui, des velléités, des rébellions, d'intégration, de ceci, de cela. Et surtout, c'est le Kivu qui est en train d'être infiltré. Alors, la position prise par le gouvernement, à mon avis, semble être idoine et on ne doit pas céder à tous ces chantages. Mais la résolution 2098 a donné également des charges au Rwanda et au Burundi, et à l'Ouganda. Mais ceux-là ne sont pas, se sentent libres, ils ne sont pas concernés. Mais comment toujours au Congo qui a gagné la guerre,
on
continue toujours à donner des oukases?
Merci Georges. Jusqu'à Kousema, tout n'est pas rendu. Ce qui rend cette question difficile, ce n'est pas l'implication, n'est-ce pas, des pays étrangers dans cette question. Vous avez suivi François Mamba qui parle des 6 nationalités qui constituaient, n'est-ce pas, les M23.
Est-ce mais que, on les dénonçait. Rappelez-vous sur ces mêmes antennes, lorsqu'il y avait signature, lorsque le gouvernement disait ici à la ville et au monde que voilà, il venait de négocier un très beau texte. Rappelez-vous que ici, nous avions déjà dès le départ annoncé les termes de cet accord-là. Mais à l'époque, on nous assimilait à qui? Et aujourd'hui, voilà qu'on a tendance à nous assimiler à ces mêmes forces négatives parce que nous avons des arguments rationnels. Non, je crois qu'il faudrait laisser aux politiques cette tendance-là, ce n'est pas à nous médias. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, la question sécuritaire est à la case de départ. Elle se complique davantage parce que ces groupes ont réussi à se regrouper, à s'organiser. Aujourd'hui, ils sont dans la nature et ils vont peut-être revenir. Et ils reviennent au moment où le gouvernement croit que la guerre est finie et qu'ils veulent le départ pur et simple de la MONUSCO, comme je l'ai entendu il y a une semaine, alors qu'on est à la case de départ. Donc, c'est une question complexe, mais à laquelle j'ai l'impression que le gouvernement accorde moins d'importance. On agit, on envoie en Ouganda parce qu'il y a un dernier développement, mais sinon, il y a toute une institution qui est là, que fait le mécanisme et suivi.
Merci Ludor. Vous pensez qu'il sera facile, n'est-ce pas, d'accomplir les 11 points contenus dans les différentes déclarations?
Mais c'est l'idéal, c'est une obligation pour tous les partis signataires. Il faut y arriver, mais pour y arriver, il faut le concours des parties prenantes. En ce qui concerne le M23, par exemple, qui refuse de venir à Kinshasa, vous avez vu, le 6 novembre dernier, les envoyés spéciaux de la communauté nationale ainsi que le gouvernement congolais les attendaient s'ils ne sont pas venus. Mais comment voulez-vous qu'on possibilise la réconciliation nationale? Comment voulez-vous qu'on possibilise les réformes sociales et économiques qui sont contenues parmi les 11 points, n'est-ce pas, de 3 déclarations de Nairobi? Nairobi. C'est là que nous disons que le M23 porte la lourde responsabilité de tout ce qui adviendrait par la suite, et en aucun cas nous ne pouvons jamais défendre la position de ce mouvement rebelle sur la conscience de laquelle donc repose beaucoup de charges.
Georges Kasongo, un mot en guise de conclusion.
Et qu'on se méfie de toutes ces velléités internationales, que les gouvernements congolais, comme l'a dit le chef de l'État, puissent continuer la réforme de nos services et de sécurité et des renseignements. C'est la seule solution par où passera la paix dans notre pays, et ne pas croire à l'aide venant de gauche ou de droite.
Merci, c'est la fin de cette émission. Dieudonné Nyangasa était à la technique et Alain Irung à la réalisation, sous la supervision de Julien Nyamoni, à la présentation Guy Maté. Merci et bon week-end sur Radio Capi.